Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. J'enregistre cette conférence justement le jour de la fête de Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, je ne sais pas très bien comment intituler cette conférence. J'ai pris un titre un peu général, Réflexion catholique, sur ce qui se passe actuellement en Ukraine avec la Russie. J'ai été un peu estomaqué de voir et d'entendre des commentaires vraiment faux et déséquilibrés sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, même venant de la part de catholiques qui devraient tout de même connaître un peu mieux les choses, y compris venant de la part de catholiques de tradition. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est non pas faire un cours d'histoire, parce que je n'ai pas de prétention dans ce domaine, je suis prêtre, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un géopoliticien. Mais j'ai la foi catholique et j'ai mon sacerdoce. Et je voudrais simplement essayer d'utiliser ce qui se passe actuellement en Ukraine, mais d'analyser les choses avec un point de vue de catholique, un point de vue de prêtre. Je vous rappelle ce que nous disait tout le temps Monseigneur Lefebvre au séminaire, vous aurez comme prêtre d'abord à aider vos fidèles à penser droit. Je pense que la première chose qu'il faut réaliser, c'est que tout ce qui se passe actuellement, que ce soit ce qui se passe en Ukraine et aussi ce qui se passe avec l'OTAN et l'influence américaine, tout ça n'est que la conséquence, si vous voulez, d'un combat gigantesque, qui est d'abord un combat d'ordre spirituel. Il y a deux camps, si vous voulez. Le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, fondé sur Dieu, et le camp de la Révolution, fondé sur l'homme. Le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, fondé sur l'humilité, la foi, l'espérance, la charité, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et le camp du démon, le camp de l'homme, fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe sans d'abord réaliser ces choses-là. Je fais partie de cette guerre terrible. Cette guerre entre deux camps, le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien, c'est pas le camp de l'OTAN, le camp de M. Poutine. Le camp du bien, c'est le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Le camp du mal, c'est pas le camp de l'OTAN ou de M. Poutine, c'est le camp du démon. Alors, il faut pas oublier ça. Lorsque Dieu est mis au rebut d'une société, lorsqu'il est chassé d'une société, comme la nature a horreur du vide, le démon vient prendre la place. Rappelez-vous la remarque très pertinente du Saint-Curé d'Ars déjà en son temps. Laissez une paroisse 20 ans ou 30 ans sans prêtre et on y adorera les bêtes, c'est exactement ce qui se passe. Donc, encore une fois, pour essayer d'avoir un jugement correct sur ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à la grande définition traditionnelle de Monseigneur Gaume, un très grand, très grand, très grand historien. Il disait déjà, à la fin du 19e siècle, la révolution est la haine formelle de toute horde dans laquelle l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc c'est un combat terrible entre notre Seigneur Jésus-Christ qui veut régner socialement, et le refus de notre Seigneur Jésus-Christ qui entraîne le règne social du démon. Donc il ne peut pas y avoir de compréhension de ce qui se passe actuellement sans avoir ces choses-là en tête. C'est d'abord un combat d'ordre spirituel. Donc un vrai contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui veut mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie spirituelle personnelle. On ne peut pas comprendre ce qu'est la révolution sans avoir compris que la révolution, c'est d'abord la haine formelle de toute forme de vie intérieure. Et donc, si je ne suis pas en union avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'état de grâce, je ne peux pas prétendre participer à la contre-révolution. Au contraire, si je n'ai pas de vie intérieure, je fais partie, ipso facto, même si je ne veux pas le reconnaître, je vais faire partie de l'armée qui lutte contre notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pie X disait déjà qu'il n'y avait pas un choix entre deux civilisations. Il y avait un choix entre une civilisation chrétienne ou pas de civilisation du tout. Rappelez-vous, je reviens rapidement sur des choses que j'ai déjà longuement expliquées dans d'autres conférences. Pour bien comprendre tout ça, encore une fois, revenons aux quatre causes de la révolution. La cause efficiente de la révolution, c'est le démon. C'est lui qui dirige tout. Mais qui va utiliser des causes qu'on appelle des causes instrumentales. Et la pire des causes instrumentales, la plus dangereuse, ce sont les mauvais catholiques, les catholiques libéraux. C'est ce que disait le pape Pie IX. Je ne crains pas les bandits de la commune de Paris, je crains beaucoup plus les catholiques libéraux. Donc le but de la révolution, la cause finale, c'est la damnation des âmes. La cause formelle de la révolution, c'est la trilogie maçonnique, de liberté, d'égalité et de fraternité. Et la cause matérielle, c'est l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Donc on peut dire que l'histoire de la révolution n'est rien d'autre que l'histoire de la décatholicisation du monde. Si la cause efficiente principale de la révolution est le démon lui-même, bien évidemment nous devons en trouver les racines dans la révolte de Lucifer avec son cri de guerre contre Dieu, je ne servirai pas. Alors je vais essayer d'appliquer un petit peu ce que je viens de vous dire à la situation actuelle politique. Pour ceux qui veulent un peu creuser ce qui se passe en Ukraine, je conseille beaucoup un site historique très bien fait, avec un excellent esprit, qui s'appelle Stratpol, S-T-R-A-T-P-O-L, que je conseille beaucoup, et qui est dirigé par M. Xavier Moreau, qui habite à Moscou, donc en Russie, qui connaît donc bien la situation. Alors, je voudrais faire un certain nombre de remarques. J'espère ne vexer personne par ces remarques, mais je risque de faire grincer certaines dents. Tant pis. La première des choses qu'il faut comprendre pour juger ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que les médias, les grands médias, à savoir les grands médias au niveau des journaux, de la télévision, des radios, ces grands médias sont entièrement au service de l'oligarchie qui dirige tout ça. Les grands milliardaires qui, à cause du pouvoir que leur donne leur fortune, dirigent tous ces médias. Et donc, il faut se mettre dans la tête que ces médias mentent tout le temps. Tout le temps, toujours, toujours, toujours. C'est quelque chose de absolument systématique chez eux. Je dirais même, ils sont incapables de faire autre chose que de mentir. Donc, il faut le savoir. À chaque fois que vous avez une information sur ces grands journaux concernant l'Ukraine, une photographie concernant l'Ukraine, ou des choses de ce genre, première chose qu'il faut vous dire, c'est vraisemblablement la photo qu'on me donne est une photo truquée. Les affirmations qui sont dans ce texte que je suis en train de lire, écrit par ces gens-là, est manifestement, certainement quelque chose de faux. Pour preuve, je voudrais vous citer un texte assez connu de William Carr, dans son livre « Des pions sur l'échiquier ». Voilà ce qu'il disait, William, et voilà ce qu'il cite. Il rappelle que lors d'un banquet donné en son honneur à New York, à l'occasion de sa retraite, un journaliste américain qui s'appelait John Swinton, qui fut un temps rédacteur en chef du New York Times, il fit la déclaration suivante à la presse indépendante. Et ce qu'il dit n'a pas pris une ride. Voilà ce que disait ce journaliste. Alors, j'ai pas la date avec moi. Donc, je ne me rappelle plus exactement quand et de quand ça date. Mais voilà ce qu'il disait. Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez, je le sais, il n'y en a pas un parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions, et s'il le faisait, vous savez d'avance qu'elle ne serait jamais imprimée. Je suis payé 250 euros par semaine pour garder mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. D'autres parmi vous sont payés le même montant pour un travail similaire. La fonction d'un journaliste est de travestir la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de ramper au pied de Mammon et de se vendre soi-même, de vendre son pays et sa race pour son pain quotidien. Vous savez cela et je le sais. Quelle folie donc que de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes des outils et les vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes, ils tirent sur les ficelles et nous dansons. Nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. Et ce que disait, ce que cite ici William Carr est tout à fait d'actualité. Une réflexion que j'ai beaucoup entendue ces derniers temps, même parfois provenant de sources traditionnelles, c'est l'affirmation que toutes les guerres sont mauvaises, par définition. Et c'est totalement faux, on n'a jamais le droit de dire ça. Il suffit de prendre comme exemple, pour prouver la fausseté de cette affirmation, que toutes les guerres seraient mauvaises, il suffit de prendre la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, 1412-1431, elle a ses apparitions, ses voix, et Dieu va lui parler à travers ses voix. Et qu'est-ce que va lui demander Dieu ? Dieu va lui demander de devenir chef de guerre. Dieu va lui demander de porter l'estocade, de devenir soldat. Chef de soldats, chef de guerre, pour bouter les Anglais hors de France et pour obtenir la consécration à Reims du dauphin Charles, qui va devenir Charles VII. Donc c'est bien la preuve, puisque c'est Dieu lui-même ici qui parle, qu'il peut y avoir des guerres justes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Sainte Jeanne d'Arc a dû attendre pendant une très longue période de temps avant d'être canonisée par l'Église. À cause de ça, justement. Parce que c'est Dieu qui intervenait directement dans les affaires politiques françaises. Or, avec l'esprit de Vatican II, Dieu n'aurait pas le droit d'intervenir dans les affaires politiques. Il y a d'autres exemples. On peut citer la guerre des Cristeros au Mexique. Le 31 juillet 1926, les évêques décident de suspendre le culte catholique par peur. Cette guerre des Cristeros, que les Cristeros avaient gagné contre les francs-maçons avec Caliès et Obregón qui dirigeaient le Mexique, cette guerre va se terminer par la trahison, malheureusement, la trahison des évêques le 29 juin 1929 qui vont obtenir les arreglos, qui vont obtenir la reddition des Cristeros, qui vont tous se faire massacrer, au moins tous les prêtres. Il y a eu des milliers de morts. Mais c'était une guerre juste. Autre exemple de guerre juste, la guerre de Vendée, pour Dieu et pour le roi. Les Vendéens se sont levés pour protéger leur foi. Donc il y a des guerres justes. On n'a pas le droit de dire que toutes les guerres sont mauvaises par définition. Autre remarque qui me semble aussi importante, de bien comprendre que les choses ne sont pas si claires. Il n'y a pas le camp du bien et le camp du mal dans ce qu'on voit autour de nous. Très souvent, le bien et le mal sont mélangés dans ces camps. Prenons un exemple historique. Prenez par exemple la Deuxième Guerre mondiale. On est habitué à lire dans les livres d'histoire, et c'est ce genre de lavage de cerveau qu'on a tous subi, ceux de ma génération, moi j'arrive à 70 ans, on a subi ces lavages de cerveau dans les cours d'histoire que j'ai eu dans le lycée complètement pourri dans lequel j'étais. Et ces mensonges étaient très clairs. Donc on nous présentait deux camps pour la Deuxième Guerre mondiale, le camp du bien, le camp du mal. Le camp du bien, c'était évidemment le camp des Alliés, avec Churchill, avec Roosevelt, avec De Gaulle, avec tous ceux qui préparaient l'OTAN actuelle, en quelque sorte, et le camp du mal, avec le Reich. Dans le camp du bien, il y avait aussi un petit ange qui s'appelait Staline. Et aujourd'hui, on essaie de nous le faire croire que tout était bon dans le camp des Alliés et tout était mauvais dans le camp du Reich. Alors, on présente Hitler comme l'incarnation du démon. J'ai jamais dit que Hitler était un ange, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous comparez le nombre de morts provoquées par Hitler avec le nombre de morts provoquées par Staline, je crois qu'on peut conclure qu'Hitler était un petit enfant en cœur à côté de Staline. Staline a été responsable de l'assassinat d'au moins 20 millions de personnes. Alors, comment se fait-il que Staline soit systématiquement présenté comme l'incarnation du bien, parce qu'il faisait partie, il était avec les alliés, donc du bon côté, et systématiquement on présente l'autre côté comme le côté mauvais. En fait, la réponse est que il y avait des horreurs des deux côtés. Ce mensonge n'en parle jamais. On voit très bien qu'il y a, je vais en parler un peu plus tard, il y a deux poids, deux mesures. Et donc les choses sont jamais claires comme ça, c'est pas aussi clair que ça. Du côté des Alliés, il y avait beaucoup d'horreurs, et du côté du Reich, il y avait aussi beaucoup d'horreurs. Donc les choses ne sont pas claires. Vous voyez, il y a une espèce de mélange à cause du péché originel, un mélange dans tout ce qui se passe actuellement, un mélange entre le bien et le mal. On ne peut pas dire qu'il y a un côté qui est bien et un côté qui est mal. Et quand on fait un petit peu le calcul du nombre de morts et des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on peut conclure que le mal provoqué du côté allié est beaucoup plus important, je crois, que le mal provoqué du côté du Reich. Quand on voit, par exemple, c'est des exemples qu'on peut donner, mais je crois que c'est des choses historiques sur lesquelles il faut insister. Quand on voyait, par exemple, les horreurs provoquées par De Gaulle en 1945, pendant ce qu'on a appelé l'épuration, la libération, soi-disant l'épuration, alors qu'on avait terminé la guerre, parce que malheureusement, dans toutes les guerres, il y a des horreurs qui sont provoquées. Eh bien, ça laisse un peu rêveur. Mais même, il faut bien arriver à comprendre ça, je pense que c'est une réflexion intéressante. Même dans un cas de guerre juste, il peut y avoir des individus qui peuvent faire des choses qui sont immorales. Vous pouvez avoir, même dans une guerre juste, peut-être des individus qui ont commis des massacres qu'ils n'auraient jamais le droit moralement de commettre. C'est tout à fait possible. Mais ça n'enlève pas le fait que la guerre reste une guerre juste. C'est pas parce qu'il y a eu, par exemple, pendant les croisades, certains croisés qui se sont mal comportés, que ça veut dire automatiquement que les croisades sont avouées aux gémonies. Pas du tout. Oui, c'est un petit peu la même chose avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, on essaye de nous faire croire que d'un côté, il y a les bons, l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, et tout ce qui tourne autour de ça, et de l'autre côté, la Russie, qui est tout mal. Donc, l'OTAN est tout bien, la Russie est tout mal. Donc, ça vient d'une fausse grille de lecture. On ne lit et n'étudie qu'un seul côté des choses. Imaginez quelqu'un qui veuille savoir un petit peu la vérité sur la Deuxième Guerre mondiale. Et qui, pour atteindre cette connaissance de la vérité historique de la Deuxième Guerre mondiale, ne lisent que des livres qui ont été écrits du côté des Alliés. Mais il n'aura jamais une vision réelle des choses. L'inverse est également vrai. S'il ne lisait que des autres ouvrages écrits du côté du Reich, il aurait aussi une vision tronquée des choses. Donc il faut lire un peu des deux côtés, et puis après étudier, faire une espèce de tri, pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est exagéré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, pourquoi le contenu, pourquoi c'est tellement difficile de s'y retrouver? Tout simplement parce que le contenu de la presse nationale, de la presse internationale, au niveau de ceux qui sont contrôlés, encore une fois, par les grandes puissances d'argent, est identique au niveau de la présentation des événements, au niveau des commentaires. Comment des journalistes de formation de nationalités différentes peuvent-ils arriver à juger de la même façon des événements internationaux? Tout simplement parce qu'ils vont collecter leurs informations à la même source. Un office de désinformation d'une société secrète antichrétienne comme la Trilatérale et tout ce qui tourne autour de cela. Vous voyez, comme il est important de réaliser ces choses-là. Les choses ne sont pas si claires que ça. L'OTAN, par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup. Donc, on essaie de nous présenter l'OTAN comme une bande de petits anges qui veulent protéger ces pauvres Ukrainiens qui sont écrabouillés par les tanks abominables de Staline, de, pardon, de M. Poutine. On oublie que l'OTAN, c'est quoi? C'est d'abord une association maçonnique, une association protestante, que ce soit le protestantisme anglais, le protestantisme américain. L'OTAN, c'est l'association du Great Reset, c'est-à-dire du nouvel ordre mondial. Et tant qu'on n'a pas compris tout cela, on n'arrive rien à comprendre. Il faut essayer de remonter aux sources. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de cette conférence, la source, c'est le démon qui dirige tout, et qui va diriger tout par toute une série d'intermédiaires, de causes instrumentales, plus ou moins élevées, plus ou moins intelligentes, qui toutes s'imbriquent les unes dans les autres. Donc il va y avoir, au début, tout à fait au début, c'est quoi? C'est le démon. Le démon qui pousse à la roue. Je ne servirai pas. Elle va entraîner d'abord, évidemment, l'énorme bêtise d'Adam et Ève. Puis ça va entraîner toutes les catastrophes qui vont suivre. Ça va entraîner le peuple juif à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça va entraîner ensuite l'arrivée de la Renaissance au XIVe siècle, l'arrivée de Luther, puis l'arrivée de la franc-maçonnerie, puis 1789, puis Vatican II. Tout ça, toutes ces erreurs monumentales viennent d'une même source, et cette source, c'est le démon lui-même. Donc attention, vous voyez, quand on veut juger ce qui se passe actuellement en Ukraine, il ne faudrait peut-être pas oublier ça. L'OTAN n'est pas un rassemblement de petits anges. C'est un rassemblement de marionnettes qui sont dirigées par des gens qui tirent les ficelles de ces marionnettes, et ces tireurs de ficelles sont eux-mêmes dirigés par d'autres tireurs de marionnettes qui vont encore un peu plus haut, et puis on peut monter très haut comme ça. Attention, il faut être honnête. Il faut éviter de tomber dans l'excès inverse. J'ai connu des catholiques qui sont tombés dans cet excès, de vouloir littéralement arriver presque à canoniser M. Poutine. Attention, M. Poutine n'est pas un saint, c'est pas un Saint Louis, c'est pas une Sainte Jeanne d'Arc. Bon, il est orthodoxe, c'est un ancien du KGB. Il ferait peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit vulgairement. Donc, il faut essayer de voir les choses de façon objective, comprendre les choses de façon objective. Mais ce n'est pas parce que M. Poutine est orthodoxe que ça veut dire pour autant que tout ce qu'il fait actuellement en Ukraine est mauvais. Oui? Donc, on essaye de simplifier les choses dans les grands journaux qui nous dirigent et nous tirent les vers du nez partout. On essaye de nous faire croire que tout est bon du côté américain et de l'OTAN, et tout est mauvais du côté de M. Poutine. Ça ne se passe pas comme ça. On voit très bien qu'il y a, en quelque sorte, deux poids et deux mesures. Je voudrais vous donner un exemple tout simple, qui vient de ce matin. Ce matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un papier, je pense qu'il a été distribué par la mairie de Pathiès, un petit village où j'habite près d'Albi, dans le Tarn, un papier organisé par une société caritative pour demander des dons de nourriture, de vêtements, de couvertures pour aider le pauvre peuple martyrisé d'Ukraine. Très bien. Le problème, c'est que j'ai jamais reçu de papier dans ma boîte aux lettres d'organisation caritative demandant des dons pour les gens du Donbass, donc de la partie sud-est de l'Ukraine, qui sont bombardés depuis 8 ans, 8 années, par leur propre gouvernement de Kiev. Jamais j'ai eu dans ma boîte aux lettres un papier demandant de la nourriture, des médicaments ou des couvertures pour les Russes ou les russophones qui sont bombardés par Kiev. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Donc, on crie, on voit les gens modernes qui commencent à crier au scandale à cause de la guerre en Ukraine. Le problème, c'est que quand l'OTAN a fait 14 500 morts en Libye, il n'y a pas eu de cri. Quand l'OTAN a fait 165 000 morts en Afghanistan, ces mêmes personnes n'ont rien dit. Quand l'OTAN a fait 220 000 morts en Serbie, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens qui crient actuellement pour protéger l'Ukraine? Rien. Quand il y a eu 224 000 morts en Syrie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Quand il y a eu 1 200 000 morts en Irak, ça n'a choqué personne. Vous voyez, on voit très bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors, ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur des choses. Encore une fois, je parle comme prêtre, je ne parle pas comme historien, je ne suis pas un historien, je ne parle pas comme géopoliticien, je n'y connais pas grand-chose en géopolitique, mais j'essaye simplement de comprendre en utilisant mon intelligence qui est, j'espère, éclairée par la foi. Donc les passions doivent être gérées par la volonté par l'intelligence, l'intelligence gérée par la foi. Donc, pour essayer de comprendre, il faut parler un peu, malheureusement, finance. Finance, c'est ce qui explique beaucoup de choses, parce que malheureusement, l'argent est en train de diriger le monde. Toutes ces folies qu'on entend aujourd'hui, tous ces journalistes, tous ces grands médias qui disent les mêmes choses partout, le disent parce qu'ils sont payés par des tireurs de ficelles qui sont les grands milliardaires et qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont l'argent. Donc il faut aller un peu plus loin que les choses. Oui, prenons quelques exemples tout simples pour vous aider à comprendre. Prenons l'exemple de l'Irak. Bon, avec Saddam Hussein. Alors mon intention n'est pas du tout de dire que Saddam Hussein était un saint. Saddam Hussein était un musulman qui avait certainement pas mal de sang sur les mains. Bon. Mais enfin, Saddam Hussein est quand même quelqu'un qui a réussi à garder une union entre les musulmans et une union religieuse dans son pays, en Irak, à tel point qu'il y avait une liberté religieuse entre les différentes factions religieuses de son pays. On peut donner un exemple ahurissant. Voilà Saddam Hussein qui avait réussi, alors qu'il était musulman lui-même et qu'il était dans un pays musulman à une énorme proportion, qu'une énorme proportion, il avait réussi à avoir comme premier ministre un catholique de rite melkite qui s'appelait Tarek Aziz. Saddam Hussein, bien qu'il ait réussi justement ce tour de force à unir tous les musulmans autour de lui, a néanmoins été détruit par l'OTAN. L'OTAN est arrivé, a volé le pays, a volé le pétrole du pays, a assassiné le dirigeant du pays. Il a été assassiné par les États-Unis le 30 décembre 2006, je crois. Pourquoi? Quel est le but de la manœuvre? Et donc, il faut essayer de réfléchir un peu. Moi, je suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que les Américains, le gouvernement américain, alors attention, quand je parle des Américains, je ne mets pas tous les Américains dans le même sac. J'ai passé 15 ou 20 ans aux États-Unis, c'est un pays que j'aime beaucoup, et j'ai de très nombreux amis américains, et j'ai rencontré des familles catholiques américaines extraordinaires, donc il ne faut pas mettre tous les Américains dans le même sac. La plupart des Américains, surtout dans l'Amérique profonde, ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement. Cependant, il faut essayer d'avoir un jugement d'ensemble, c'est de savoir pourquoi les Américains, le gouvernement américain, plus exactement, met la pagaille partout, sauf dans leur propre pays. Ils n'ont pas besoin de la mettre, la pagaille, dans leur propre pays, parce que la pagaille, elle est déjà pas mal implantée dans les États-Unis eux-mêmes. Bon. Mais il faut essayer de savoir de quoi ont-ils peur. Pourquoi ont-ils essayé de détruire et ont-ils réussi à détruire complètement l'Irak qui ne s'est jamais relevé de cela? Pourquoi? Ben tout simplement parce qu'il fallait impérativement maintenir la bisbille entre les factions musulmanes, parce que si cette bisbille n'existait pas entre les factions musulmanes, tous les musulmans allaient s'unir, il y en a plus de 100 millions, pour détruire un petit pays qui était au milieu, la Palestine, plus exactement Israël. Et donc il fallait impérativement détruire l'union entre les musulmans pour pouvoir garder la survie d'Israël. C'est quelque chose de factuel. J'y peux rien, c'est comme ça. Donnons un autre exemple. Vous allez comprendre avec des exemples. En Libye, l'OTAN fait la même chose. Est allé mettre la pagaille monstre en Libye, a complètement détruit le pays. A tué, assassiné Muammar Kadhafi. Encore une fois, mon intention n'est pas de dire que Muammar Kadhafi était un saint, pas du tout. C'est quelqu'un qui avait certainement du sang sur les mains. Mais enfin, Muammar Kadhafi représentait quand même une espèce de barrage sur, si vous voulez, l'Afrique subsaharienne pour empêcher une invasion de l'Europe par l'émigration de cette région de l'Afrique. Bon, les Américains sont arrivés, le gouvernement américain est arrivé, avec l'aide en grande partie aussi de la France, malheureusement, on n'a rien à faire là-dedans, mais on s'en a mêlé exactement, hélas. Et ils ont tué Muammar Kadhafi, mis à feu et à sang le pays. Donc on peut se poser la question, moi je me suis souvent posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'OTAN est allé flanquer cette pagaille dans un pays qui est à des milliers de kilomètres de chez eux. Quelle est la raison? Puis en grattant un peu, on la trouve la raison. C'est tout simplement Muammar Kadhafi voulait unir toutes les nations d'Afrique en adossant les finances de toutes ces nations sur le dinar or. Et évidemment, ça aurait été extrêmement préjudiciable pour ceux qui veulent adosser toutes leurs activités financières sur le dollar américain. Et c'est à cause de ça que Muammar Kadhafi a été détruit. De me dire quel est le rapport avec la situation actuelle en Ukraine et en Russie. Mais figurez-vous que c'est très intéressant de savoir que M. Poutine est en train de revenir à l'étalon or. Donc le gouvernement russe a supprimé la TVA, les taxes sur les lingots d'or. Et ce projet doit être soumis incessamment, je crois qu'il a même déjà été soumis à la Douma, le Parlement russe, le 4 mars. Donc d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie vient de faire du rouble russe la monnaie la plus stable du monde, en adossant la monnaie russe à l'étalon or. Ce n'est plus du papier qui vaut simplement le prix du papier sur lequel le billet de banque est imprimé. Les billets en rouble vont être adossés sur une richesse réelle, l'or. Et comment faire en face, ils ont tellement baissé le dollar américain et l'euro, donc aucune de ces devises ne survivra à une chose pareille. Personne dans le monde ne favorisera un dollar américain soutenu par rien. Un pays endetté de 30 000 milliards de dollars par rapport à un rouble adossé à l'or. Donc en agissant ainsi, la Russie vient d'écraser complètement les États-Unis et la zone euro sur le plan financier. Alors vous allez me dire, mais alors l'OTAN va faire avec M. Poutine ce qu'ils ont fait avec M. Kadhafi ou M. Saddam Hussein. Je pense que s'ils le pouvaient, ils le feraient. Seulement évidemment, croquer M. Poutine, c'est un peu plus difficile que de croquer M. Saddam Hussein ou M. Kadhafi. Parce que la Russie est le plus grand pays du monde en taille, a une influence considérable et en plus est unie à la Chine. Faut pas oublier que si vous ajoutez la Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran, etc., vous avez peut-être 35 à 40% de la population du monde entier. Donc, quand l'OTAN vous dit que la Russie est extrêmement isolée, il ne faut pas oublier qu'ils ont avec eux 40% de la population du globe. Ça fait quand même un bon paquet. Vous voyez? Donc, il faut essayer de comprendre un peu ces choses-là pour savoir qu'en face, encore une fois, je n'ai pas l'intention de canoniser M. Poutine, mais il faut comprendre qu'en face de M. Poutine, vous avez l'OTAN qui est prêt à vendre père et mère à l'esclavage pour faire de l'argent. Alors, ces remarques sont des remarques, je dirais, j'espère, de bon sens, mais ce que je voudrais, c'est qu'elles soient de bon sens catholique. Penser comme un catholique. Ne pas penser avec l'état d'esprit des gens du monde moderne, mais penser comme un catholique doit penser. Oui. Vous savez, si la Très Sainte Vierge Marie à Fatima en 1917 a parlé de la conversion de la Russie, c'est pas pour rien. Parce que la conversion de la Russie pourrait signifier un changement complet de pouvoir. Et le pouvoir passerait en grande partie sous le contrôle des amis de notre Seigneur Jésus-Christ si la Russie se convertissait. Ça encore, ce sont des bêtises qu'on entend régulièrement, même parfois de la bouche des catholiques de tradition. Oh oui, mais l'orthodoxie russe est très proche du catholicisme. Attention, oui et non. N'oublions pas que les orthodoxes russes ne croient pas au purgatoire, ne croient pas au principe de la papauté, ne croient pas en l'Immaculée Conception, ne croient pas à l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. C'est quand même des petits détails qui sont importants. N'oublions pas que les mariages bénis par l'orthodoxie russe sont en général invalides parce que l'orthodoxie russe accepte trois divorces pour les mariés se marient sous les règles canoniques de l'Église orthodoxe russe. Mais il faut aussi comprendre que bien que ce soit une fausse religion, l'orthodoxie est une fausse religion, attention, c'est un peu compliqué parce que c'est une fausse religion, mais qu'elle est sacrément valide. Parce que à part les mariages qui sont invalides, à cause de ce que je viens de vous dire pour l'orthodoxie russe, les autres sacrements sont valides. Vous rentrez dans une église orthodoxe russe, s'il garde le Saint-Sacrement dans cette église, il y a présence réelle dans la mesure, encore une fois, attention, dans la mesure où cette église orthodoxe garde les traditions anciennes. Malheureusement, d'après ce que je sais, il commence à y avoir un petit peu de remue-ménage, même dans l'orthodoxie russe, avec des jeunes freluquets qui voudraient faire introduire l'esprit de Vatican II, en quelque sorte, dans l'église orthodoxe russe. À ce moment-là, ça va entraîner l'invalidité de beaucoup de sacrements. Mais actuellement, autant que je sache, il y a encore des sacrements valides. Donc, lorsqu'un pope orthodoxe célèbre la Sainte Messe, il y a messe valide. J'ai visité une fois aux États-Unis une église orthodoxe parce que j'avais un bâtiment qui était en location et je voulais savoir si je pouvais l'utiliser éventuellement pour les conférences que je voulais donner. Eh bien, j'ai une réflexion quand même dans cette église, bien que ce soit une fausse église, parce qu'il y avait présence réelle. À tel point qu'un prêtre orthodoxe russe, qui est vraiment prêtre, eh bien, s'il donnait l'extrême onction à votre grand-mère qui est en train de mourir parce que vous êtes dans un coin où il n'y a aucun prêtre catholique, l'extrême onction serait valide. Et s'il donnait l'absolution à votre grand-mère qui est en train de mourir parce que vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de prêtre catholique du tout, eh bien, encore une fois, vous auriez là un sacrement parfaitement valide en cas d'urgence. Alors, essayons de conclure avec. Je vais conclure avec un texte. Comment envoyer? Personne que je connaissais pas du tout. C'est un philosophe russe qui s'appelle Alexandre Douguine. Il y a des choses que dit ce monsieur qui sont, à mon avis, extrêmement importantes et je voudrais les partager avec vous. Je remercie monsieur, cet ami qui m'a fourni ces textes dans son fil d'actualité qui est absolument remarquable, qui s'appelle Zakaï. Et voilà ce que dit Alexandre Douguine. Je vais essayer de vous commenter rapidement ce qu'il dit pour nous aider à comprendre les choses. Encore une fois, n'oublions pas, je ne sais pas quelle est la religion d'Alexandre Douguine, je suppose qu'il est orthodoxe. Donc ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit doit être compris et accepté comme parole d'évangile. Cependant, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit qui vont nous aider à avoir une conception, une vue équilibrée de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, reprenons, je ne vais pas vous donner un cours d'histoire, vous savez ce qui se passe en Ukraine. Ça fait donc de 8 ans que le gouvernement de Kiev bombarde ses propres citoyens qui habitent dans le sud-est de l'Ukraine, donc des russophones, sans que l'OTAN ait dit quoi que ce soit. L'OTAN envoie plus d'un milliard d'armes à l'Ukraine pour bombarder ses propres citoyens, et qui ont le malheur d'être dans le Donbass, sur le côté du Donbass. Donc tout ça, c'est bien à comprendre. Hein. En plus de ça, les Américains, le gouvernement américain avance ses pions, étant de plus en plus, malgré toutes les promesses qui ont été faites sur le plan politique, étant de plus en plus l'influence de l'OTAN vers l'Est, mais des bases des rampes de fusées, d'armes capables d'atteindre Moscou très facilement à la frontière avec la Russie. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque les Russes ont voulu, sous Khrouchtchev, je crois que c'était, ont voulu installer des bases de lancement de missiles à Cuba. Ça a failli faire la Troisième Guerre mondiale. Alors, les Américains ont le droit de faire ce que les Russes n'avaient pas le droit de faire à Cuba. Donc, il faut faire un petit peu attention, encore une fois, juger les choses dans la vérité. Donc, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une confrontation contre le globalisme en tant que phénomène planétaire intégral. Attention, encore une fois, je ne dis pas que M. Poutine est tout blanc. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut essayer de réfléchir un petit peu aux choses. Il est évident que M. Poutine est un obstacle au mondialisme tel qu'il est voulu par l'OTAN et la maçonnerie, la judéo-maçonnerie américaine. Bon. En face de ça, il y a une autre forme de globalisme voulue par la Chine et la Russie, mais avec, ou surtout de la part de M. Poutine, un certain respect de certaines valeurs. J'ai entendu des discours, avec traduction russe, parce que du russe au français, parce que je ne parle pas le russe, malheureusement, j'ai entendu des discours de M. Poutine, entre autres des discours juste avant le début de cette guerre en Ukraine. Et des discours tout à fait remarquables. J'aurais pu signer certaines de ces déclarations, alors que je ne pourrais jamais signer la moindre déclaration de Macron. Ce serait impossible. Donc c'est une confrontation à tous les niveaux. Confrontation au niveau géopolitique, idéologique. La Russie rejette tout dans le mondialisme. Encore une fois, il faut prendre cela avec une pincette, avec des pincettes. L'unipolarisme, l'atlantisme d'une part, et le libéralisme, l'antitradition, la technocratie en un mot, le Great Reset d'autre part. Bon. C'est vrai que du côté russe, il y a un respect de la famille, un respect des personnes âgées, un respect du pays, il y a un amour véritable de M. Poutine pour son pays, chose qu'on ne voit absolument pas en France. Aucun amour de la part du président actuel de France pour son pays, ils sont contrefiches royalement. Donc Alexandre Douguine continue. Il est clair que tous les dirigeants européens font partie de l'élite libérale atlantiste. La Russie est désormais exclue des réseaux mondialistes. Elle n'a plus le choix. Soit elle va construire son monde, soit elle va disparaître. La Russie a donc tracé une voie pour construire son monde, sa civilisation. Et nous sommes en guerre contre cela, d'où leur réaction légitime. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Poutine a eu une patience d'archange avec l'OTAN. Puis combien de temps les prévient-il, les prévient-il l'Ukraine, en disant, attention, vous allez arrêter votre expansion vers l'Est, vous allez arrêter de financer les armes, de vendre de là des armements extrêmement dangereux à l'Ukraine, pas seulement à l'Ukraine, aussi à tous ces pays qui sont en bordure de l'Union soviétique et qui peuvent faire énormément de mal à la Russie. Bon. La Russie est donc en train de créer un champ de résistance mondiale. La première étape a donc été franchie. Mais le souverain face au mondialisme ne peut être qu'un grand espace, un état continent, un état civilisation. Aucun pays ne peut résister longtemps à une déconnexion complète. Seulement l'Amérique, la Russie est un état continent. Donc, la victoire de la Russie serait une victoire pour toutes les forces alternatives, de droite comme de gauche, et pour tous les peuples. Et Alexandre Douguine dit, nous entamons comme toujours les processus les plus difficiles et les plus dangereux. Mais quand on gagne, tout le monde en profite. Ça devrait être comme cela. Nous créons les conditions d'une véritable multipolarité. Et ceux qui sont prêts à nous tuer maintenant seront les premiers à profiter de notre entreprise demain. Encore une fois, je ne dis pas que je suis d'accord entièrement avec ce que dit cet Alexandre Douguine, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Voilà la partie, à mon avis, la plus intéressante. Voilà ce que dit Alexandre Douguine. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie de rompre avec l'Occident? Eh bien, réponse, dit Alexandre Douguine, c'est le salut. Le salut de la Russie vient dans le fait que la Russie est en train de rompre avec l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident moderne, dit Alexandre Douguine, où triomphent les Rothschild, les Soros, les Schwab, les Bill Gates, les Zuckerberg, est la chose la plus dégoûtante de l'histoire du monde. Ce n'est plus l'Occident de la culture méditerranéenne gréco-romaine, ni le Moyen-Âge chrétien, ni le XXe siècle violent et contradictoire. Bon, personnellement, je n'aurais pas mis cette dernière membre de phrase. C'est un cimetière. Écoutez bien ce que dit Alexandre Douguine. La rupture avec l'Occident, c'est la rupture avec un cimetière des déchets toxiques de la civilisation et de l'anti-civilisation. Ce qu'on voit aujourd'hui en Occident, ce n'est plus une civilisation, c'est l'ombre d'une civilisation. C'est une gigantesque poubelle, pleine d'asticots et de corruption. Et plus tôt, dit Alexandre Douguine, plus tôt et plus complètement la Russie s'en détache, plus tôt elle revient à ses racines. À quelles racines? Mais aux racines chrétiennes, gréco-romaines, méditerranéennes, européennes. C'est-à-dire aux racines communes, au véritable Occident. Ces racines, les leurs, l'Occident moderne les a supprimées. Elles sont restées en Russie. Vous voyez, encore une fois, il faut. Je ne dis pas que j'aurais dit les choses exactement les mêmes termes. Parce que c'est vraisemblablement un orthodoxe qui parle. L'orthodoxie est une fausse religion. Cependant, quand il dit que l'Occident actuel, donc on peut inclure dans cet Occident l'OTAN, est un cimetière des déchets toxiques de la civilisation, une anti-civilisation, je ne puis qu'être d'accord. Quand il dit que cet Occident est la chose la plus dégoûtante de l'histoire du monde, je ne puis qu'être entièrement d'accord. Continuons le texte d'Alexandre Douguine. La Russie n'est pas l'Europe occidentale. La Russie a suivi les Grecs, Byzance et le christianisme oriental. Alors attention, hein, quand on utilise le mot chrétien, christianisme, c'est un peu un grand sac dans lequel on peut mettre un peu n'importe quoi. Bon, l'église catholique est une église chrétienne. L'église orthodoxe est aussi une église chrétienne. Mais c'est pas la même église. L'église orthodoxe est une église chrétienne qui est une fausse église, l'église catholique est une église chrétienne qui est une véritable église. Vous voyez, donc il faut bien préciser les choses. Donc, la Russie suit toujours cette voie, avec des zigzags et des détours, parfois dans les impasses, mais ça bouge. La Russie, dit Douguine, est née pour défendre les valeurs de la tradition contre le monde moderne. C'est précisément cette révolte contre le monde moderne, vous comprenez? L'Europe doit rompre avec l'Occident. Les États-Unis doivent aussi suivre ceux qui rejettent le mondialisme. Et il y a beaucoup d'Américains qui seraient d'accord avec ce texte. Beaucoup de fidèles américains rejettent le mondialisme voulu par Biden et ses petits copains. Alors tout le monde comprendra la signification de la guerre moderne en Ukraine. Beaucoup de gens en Ukraine l'ont compris. Mais la terrible propagande colérique libérale nazie n'a rien laissé de côté dans l'esprit des Ukrainiens. Ils reviendront à la raison et se battront avec nous pour le royaume de la lumière, pour la tradition et une véritable identité chrétienne européenne. Les Ukrainiens sont nos frères, c'est un russe qui parle. Ils l'étaient, ils le sont, ils le seront. La rupture avec l'Occident n'est pas une rupture avec l'Europe, c'est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide. Et là, je ne peux qu'être d'accord. Hein? La rupture avec l'Occident, c'est donc une rupture avec l'anti-civilisation, avec ce cimetière des déchets toxiques de la civilisation, c'est une rupture avec la chose la plus dégoûtante de l'histoire du monde, parce que c'est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide. Vous voyez? Alors pourquoi c'est tellement difficile de comprendre ces choses-là? Tout simplement parce que tous les grands organes de presse fabriquent l'opinion. Aussi, ne faut-il pas s'étonner quant au résultat de ce travail de sape qu'ils ont fait par tous les sondages, par le référendum sur Maastricht, par les résondages en faveur des mœurs dissolues, des valeurs antichrétiennes, des valeurs antifamiliales, des partis politiques favorables à la propagation de ces mêmes valeurs que la télévision et l'Internet consolident partout. Donc l'opinion est en effet toujours travaillée dans le sens recherché par ceux qui ont financé la révolution et mis en place cette démocratie. Vous voyez, je pense qu'il faut faire attention, il faut conserver la foi, mes bien chers frères. Il faut aussi conserver le bon sens. Vous voyez, il faut vraiment prier. Moi, je crois qu'il faut prier actuellement pour que les prophéties de Fatima se réalisent. Mais malheureusement, le pape Pie XII a jamais, le pape XI d'abord, et puis le pape Pie XII n'ont jamais accepté de publier le message de Sainte Fatima alors que ça avait été demandé par la Très Sainte Vierge Marie. Bon, et c'est bien dommage. Mais en même temps, il faut bien comprendre que la Russie a un rôle à jouer dans ce travail de conversion du monde. C'est bien pour ça que la Très Sainte Vierge Marie a annoncé qu'un jour la conversion de la Russie se fera. Elle avait prévu, c'était la volonté du bon Dieu, que la conversion de la Russie devait déjà se faire avec la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et là, ça n'a pas été fait. Mais ça aurait dû être fait. Et si ça avait été fait, la Russie se serait convertie. Ou est-ce que la Sainte Providence peut utiliser M. Poutine pour convertir la Russie et pas la conversion de la Russie, arriver à obtenir un changement complet des paradigmes politiques actuels, économiques actuels? C'est tout à fait possible. Vous voyez, autant je peux comprendre, si vous voulez, que des Russes aient une admiration pour M. Poutine. Par contre, c'est vraiment un tsar, c'est un chef. Avec ses défauts, mais c'est un chef. Qu'est-ce que vous voulez qu'un Français puisse trouver à admirer dans M. Macron? Il n'y a rien à admirer, même avec la meilleure bonne volonté du monde, il n'y a plus rien à admirer. Parce que c'est une marionnette. J'aimerais pouvoir dire que tout est possible avec la conversion de M. Macron. J'espère bien que M. Macron va un jour se convertir. Mais on n'en voit pas du tout le moindre indice, alors qu'il y a des indices d'une possible conversion de la Russie orthodoxe. Parce que M. Macron a au moins compris qu'il fallait l'union entre l'Église et l'État. Ce que M. Macron est incapable de comprendre. Absolument incapable de comprendre. Vous voyez, alors, il faut vraiment demander au bon Dieu de nous aider à comprendre toutes ces choses. Ce sont pas des choses faciles à comprendre, mais il faut quand même essayer au moins de voir comment le bon Dieu peut tirer tirer des choses qui sont bonnes. Le bon Dieu peut aider certaines personnes à comprendre ce qui se passe par ce qui se passe actuellement en Ukraine. Vous voyez ? Et ce n'est pas pour rien que l'Église de Vatican II, évidemment, a pris position immédiatement en faveur de l'Ukraine, pour l'OTAN, contre ce qui se passe en Russie au niveau de M. Poutine. Vous voyez ? Alors, il faut pas se décourager, mes bien chers frères. Il ne faut pas se décourager, mais en même temps, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Hein, vous voyez ? Pourquoi a-t-on tellement de mal à comprendre ces choses qui sont pourtant, me paraît-il, assez évidentes? C'est tout simplement parce que notre intelligence est morte. L'intelligence est morte. Rappelez-vous le titre de ce magnifique livre de Marcel de Corte, le philosophe belge, L'intelligence en péril de mort. L'intelligence en péril de mort. Mais c'est tout à fait ça. Hein? Ainsi, M. Decaux disait, je vous cite une partie de ce qu'il disait, nous sommes en train de mourir sous l'influence romantique d'une démocratie abstraite qui tourne le dos à la réalité sociale depuis la Révolution française. La démocratie en France est entièrement fondée sur la liberté religieuse, est entièrement fondée sur l'idéalisme, sur les philosophies subjectivistes. Chacun fait sa vérité. Vous voyez? Donc il faut comprendre un petit peu ces choses-là et demander la grâce de garder la foi et de garder en même temps le bon sens. Alors il faut vraiment prier la Très Sainte Vierge Marie pour que nous soyons capables de comprendre ces choses-là. Il est temps de conclure, je voudrais conclure avec Marcel de Corte. Voilà un petit peu ce qu'il dit dans sa préface. Et nous sommes approchés aussi près que possible de l'origine de cette étrange maladie qui affecte l'homme, dans ce livre, Intelligence en péril de mort, qui affecte l'homme de la seconde moitié du XXe siècle et qui l'infecte à la jointure même de l'âme et du corps, là où il est spécifiquement homme. Nous croyons en avoir trouvé la cause dans l'âme même de l'homme, au sommet même de son être, dans sa différence spécifique. L'intelligence. Ainsi, l'homme contemporain, dévalant sa pente sous la poussée de l'homme du XVIIIe siècle et de la Révolution, a de plus en plus sacrifié son intelligence spéculative qui s'efforce de comprendre la réalité des êtres et des choses, qui s'efforce, pardon, de correspondre à la réalité des êtres et des choses, ainsi que son intelligence pratique qui tente d'accorder les moyens qu'elle utilise à la fin ultime de la vie humaine dont elle subit l'attraction. À son intelligence ouvrière, fabricatrice d'un monde, d'une société, d'un type d'homme artificiel. L'homme tue ainsi en lui l'intelligence qui lui reproche inlassablement d'avoir franchi les bornes du réel pour se jeter dans une civilisation des écrans, pour se jeter dans une civilisation complètement virtuelle. Et une fois que l'intelligence est morte, écoutez bien ce que disait Marcel de Corte, une fois que l'intelligence est morte, il ne reste plus en l'homme que l'animalité. Toute substitution, dit-il, d'une activité de l'esprit à une autre provoque immédiatement un désordre, une perturbation organique dans l'âme de l'homme. Et donc il faut demander cette grâce de retrouver l'usage de notre intelligence. Retrouver le sens du réel. La philosophie de Saint Thomas d'Aquin, dont on fête aujourd'hui la sainteté, c'est une philosophie du réel, c'est la philosophie objective. Saint Thomas soumet les intelligences au réel. C'est le sujet qui se soumet au réel. En face de nous, vous avez la révolution qui veut soumettre le réel au sujet. Le sujet devient son propre Dieu. Donc c'est la déification de l'homme. Alors, je vais terminer ici, demandant à la Très Sainte Vierge Marie encore une fois de nous aider à comprendre toutes ces choses. J'ai parfaitement conscience, j'ai beaucoup hésité à faire cette conférence, j'ai parfaitement conscience que je rentre ici dans un domaine qui est à la limite de ce qui me concerne. Je connais ma fonction de prêtre, mais encore une fois, je ne suis ni un politicien, ni un géopoliticien. Mais j'essaye simplement de réagir en tant que prêtre pour aider mes fidèles, ceux qui écoutent sur Internet, d'aider mes fidèles à garder bon sens dans tout ce qu'ils font et surtout de garder le bon sens catholique et l'usage normal de leur intelligence. Nous allons terminer par une petite prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.